L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 11h30. Nous sommes le 20 avril 1814. Le château de Fontainebleau, extraordinaire bâtiment qui semble tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, résidence des rois de France, a pris aujourd'hui ses habits de deuil. Dans quelques minutes, l'empereur des Français depuis 10 ans, Napoléon Ier, va faire ses adieux à ses plus fidèles partisans, entérinant par là même sa chute, devenue inexorable depuis 2 ans. L'escalier d'honneur du château est sa parure, comme un magnifique collier de pierre qui donne au lieu tout son caractère. On compte 46 marches qui sont comme des perles, des bijoux d'architecture construites à la demande de Louis XIII. Aujourd'hui, un homme se tient tout en haut, un bicorne sur la tête. Depuis 9 jours, le 11 avril exactement, il n'est plus ce souverain qui a fait trembler le monde pendant des années. Près de 22 ans de guerre contre la plupart des monarchies d'Europe, avec en tête de file la perfide Albion anglaise et la Russie des tsars. Très longtemps, Napoléon Ier leur a tenu la dragée haute, les battant les uns après les autres à plate couture. Et il y a 2 ans maintenant, une campagne militaire aux confins des steppes russes a éteint sa bonne étoile qui, jusqu'alors, illuminait le ciel mondial. Depuis les catastrophes déferlées sur lui comme les cavaliers de l'Apocalypse dans les écrits bibliques, et il n'avait rien pu faire pour les en empêcher. Sa chute, inévitable. Mais pour un temps en pause, le destin le plus improbable et scintillant de l'histoire de France. Et pour le moment, Napoléon se tient en haut de l'escalier d'honneur du château de Fontainebleau. Il est entouré de quelques officiers de sa garde, et leurs épaulettes dorées donnent aux petits bicornes de l'empereur déchu une aura solaire. Lui est vêtu de son uniforme préféré, celui de ses chasseurs à cheval, vert au parement des manches rouges. Le bicorne qu'il porte aujourd'hui est l'un des derniers fabriqués par la célèbre maison Poupart, son chapelier parisien. Et alors qu'il s'apprête à descendre les marches devant lui, il se surprend à pleurer. En bas de celui qu'on appelle aussi l'escalier en fer à cheval, stationnent les titans de sa grande armée, les moustachus invincibles, les géants qui sentent la poudre et le sang. Avant que Napoléon ne pose le premier pied pour descendre vers son destin, le grand maréchal du palais, le fidèle Bertrand, qui respecte l'étiquette du régime comme au premier jour, annonce aux soldats et à la foule qui se presse derrière les grilles l'empereur. Pas un cri, même étouffé n'est émis de l'extérieur. Pas de protestation non plus. Non, un silence lourd et respectueux s'est installé et le temps est suspendu. Près de la grille, des voitures attelées aux magnifiques chevaux blancs et alezans attendent avec patience et diligence. Pour descendre l'escalier, l'un des fidèles de Napoléon lui donne le bras. Le souverain, poussé à l'exil, étant écrasé par l'émotion. Les tambours dans la cour battent l'air célèbre au chant. Le cérémonial, l'étiquette sont maintenus, exactement comme si Napoléon dirigeait encore la France. Le régiment, lui, n'a pas bougé d'un pas. C'est le premier régiment des grenadiers à pied de la garde impériale qui se tient là, les plus vieux, les plus expérimentés de ces hommes. Certains se battent depuis plus longtemps que lui, ont des tatouages républicains sur la peau qui datent de la Révolution. Le général de ce régiment l'accueille. L'homme au bicorne lui serre la main et, d'un geste, stoppe les tambours. Il s'avance d'un pas assuré et la voix tremblante d'émotion s'adresse à ses soldats. « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Mais la guerre était interminable. C'eût été une guerre civile et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. » Dans les rangs, les larmes coulent. Certains de ces hommes ont connu l'Égypte et les terrifiants Mamelouks ou la symphonie infernale des canons autrichiens à Wagram ou Essling. Rien ne peut les faire vaciller. Pas un ennemi, pas une tempête. Mais leur chef adoré, celui pour qui ils ont risqué leur vie pendant des années, s'en va pour de bon. Pour autant, le régiment, toujours, ne bouge pas d'un pas. Pendant quelques minutes, la voix de l'aigle résonne ainsi dans la cour. Et en guise de conclusion, il emploie ces mots. « Recevez mes remerciements. Je ne puis vous embrasser tous. Je vais embrasser votre chef. J'embrasserai aussi votre drapeau. Approchez, général. Faites avancer le drapeau. Que ce baiser passe dans vos cœurs. Je suivrai toujours vos destinées et celles de la France. Adieu, mes enfants. » D'un geste, Napoléon se saisit du drapeau du régiment, l'embrasse et essuie ses larmes chaudes dans son sein. Tous les hommes présents vacillent, comme touchés par une charge de cavalerie ennemie. Mais déjà, l'empereur en exil, d'un pas actif mais peu assuré, arrive au niveau de sa voiture. Il donne l'accolade au général du régiment, monte en voiture et les grilles du château s'ouvrent. D'un seul homme, la foule compacte se sépare en deux et les chevaux font claquer leur fer sur la voie pavée menant à la côte atlantique. Les larmes coulent toujours sur les joues de Napoléon et son esprit s'égare et se perd dans les souvenirs de son passé. Alors qu'il longe les dépendances du château avec son escorte, il se revoit comme un rêve qui vous tient encore haletant au réveil sur la terrasse du palais des Tsars, regardant Moscou en proie aux flammes. Sa bonne étoile est morte ce jour-là, aux premières lueurs de l'automne de l'année 1812. Il l'a toujours su. Nous sommes le 18 octobre 1812. Il est 10h. D'un pas feutré, au deuxième étage du palais des Térems, au cœur du Kremlin, l'aide-de-camp personnel de l'empereur vient chercher son maître. Comme à l'accoutumée, depuis un mois, il s'avance avec un mouchoir couvrant sa bouche et son nez, tant l'atmosphère est irrespirable. Il traverse les allées palatiales, jette un regard à un tableau représentant Pierre le Grand et... il remarque que l'homme de la peinture semble le fusiller du regard. Sa façon de témoigner sa haine pour les envahisseurs dont il fait partie. Soudain, au détour d'un énième couloir, il trouve celui qu'il est venu chercher, Napoléon Ier, empereur des Français et roi d'Italie. Il porte sa célèbre redingote grise. Son bicorne à la main et ses bottes de cavalerie aux pieds sont le signe qu'un départ imminent se profile. Son fidèle aide-de-camp lui annonce qu'il faut partir, justement. Les yeux au loin dans les flammes qui dévorent Moscou depuis un mois déjà, l'empereur remarque que les colonnes de ses régiments, les chines courbées par la peur des flammes, sortent de la ville. Ces hommes ne comprennent pas ce qui leur tombe sur la tête, et plus inquiétant encore, Napoléon non plus. Il était persuadé qu'après qu'il ait pris Moscou, Alexandre Ier, le souverain de la Russie, allait se rendre, ou au moins discuter. Mais réfugié plus au nord, à Saint-Pétersbourg, l'ours russe a résisté. Et pire encore, il n'a pas hésité à faire incendier sa propre capitale pour provoquer le départ de son assaillant. Pour l'une des premières fois de son règne, l'empereur se sent pris au piège, comme coincé. Sa victoire sous les murs de Moscou, la plus chèrement jamais gagnée, celle qu'on appelle déjà la Moscova, est entrée dans la légende. 250 000 combattants, 1100 canons pour une victoire en demi-teinte, certes, mais une victoire. Il y a pourtant perdu beaucoup trop d'hommes, plus de 30 000 ce funeste 7 septembre. Bizarrement, sans trop de résistance, sa grande armée est entrée dans Moscou. La nuit suivante, les Russes ont fait vider les prisons, et promit aux malfrats l'absolution si la capitale était détruite dans les flammes. Bien entendu, Napoléon a tout fait pour maîtriser la situation. Mais les dizaines de départs de feu, les incendiaires et leurs méthodes ont eu raison de sa logistique. Après un mois d'efforts, il fallait se rendre à l'évidence. Envisager la retraite et prendre le chemin du retour est devenu inévitable. L'objectif, prendre une autre route que celle de l'aller et filer vers le sud du pays, car les ressources ont déjà été ponctionnées sur la route de Smolensk. Il reste à Napoléon près de 300 000 hommes à nourrir. Il se revoit au mois de juin, fringant comme jamais, à la tête de la plus puissante force armée de l'histoire, multinationale et composée de plus de 700 000 soldats. Rien. Rien alors ne semblait pouvoir l'arrêter. Son aide-de-camp le tire de ses pensées et le presse. Une heure après, sur son cheval préféré, le gris Marengo, il longe à la tête de son état-major les murailles de la ville millénaire. Ses plus fidèles lieutenants, déjà, murmurent entre eux. Napoléon a-t-il encore les armes pour les mener vers la gloire? Il semble un instant oublier que, sans lui, il n'aurait jamais été aussi haut, ne serait jamais devenu aussi riche ou bardé de médailles, de titres. Décidément, ils ont la fidélité bien légère. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ces géants militaires, pour le moment, suivent leur maître, qui est seul à l'avant. Ces courageux maréchaux sont là aussi. Murat, qui est aussi son beau-frère, et le maréchal Ney. Davout, l'invincible, sait. Le regard inquiet qu'il vient de capter chez le souverain est synonyme de difficulté à venir. Et si tout était perdu ? Nous sommes le 29 novembre 1812. Il est 7 heures du matin. Lorsque le général Eblé reçoit l'ordre de Napoléon, il est pris d'effroi. Depuis 5 jours, ses sapeurs se sacrifient dans les eaux gelées de la Bérézina pour faire passer ce qu'il reste de l'armée. On ne parle même plus de grande armée, tant les effectifs ont déjà fondu comme neige au soleil, sans mauvais jeu de mots. Et aujourd'hui, Napoléon lui demande de faire sauter les ponts. Les Russes arrivent. La mission est simple. Les explosifs sont là et il ne reste qu'à les placer. Mais le général, qui lui aussi a passé des heures dans l'eau gelée et en mourra d'ici quelques semaines, se trouve face à un cas de conscience. Eh bien oui, il reste 12 000 personnes qui n'ont pas pu encore traverser. Alors il décide d'attendre, de leur faire envoyer des messagers à pied car ils n'ont plus de chevaux depuis longtemps. Envoyer aussi à leur rencontre des hommes en forme pour aider au maximum les traînards. Mais à 9 heures, alors qu'on entend déjà les cris des Cosaques perchés sur leurs petites montures, les ponts sautent. Près de 8 000 personnes n'ont pas pu traverser et resteront bloquées sur l'autre rive. Avec la force du désespoir, certains se jettent dans les eaux gelées et restent pour la plupart prisonniers du fleuve. Pour les autres, leur sort n'est pas plus enviable et ils tombent aux mains des terribles Cosaques qui vont violer, rapiner, déshabiller, tuer et laisser pour mort ces pauvres hommes qui, il y a quelques mois encore, les faisaient trembler de peur et d'effroi. Napoléon, lui, continue d'avancer. Il est déjà parti depuis longtemps. Il n'a pas été témoin de la désobéissance des blés. Bientôt, l'empereur devra abandonner ses hommes et retourner à Paris, où une conspiration contre lui est en train d'être menée. Mais pour le moment, il repense à ces dernières semaines durant lesquelles sa magnifique armée a disparu. Ils ne sont plus aujourd'hui qu'un peu plus de 70 000 sur les 700 000 au départ. Le plus imprévisible et terrible des lieutenants du tsar, Alexandre, lui a tenu tête et, vous l'aurez compris, c'est l'hiver. Ce sont les conditions hivernales particulièrement dures qui ont eu raison de son armée. Napoléon, comme les autres, ne se rase plus depuis des semaines. Certains de ses chevaux sont morts de froid déjà, et bon nombre de ses cavaliers vont à pied. La plupart des richesses emportées à la sortie de Moscou sont restées sur le bord des routes. Et ce sont des centaines de soldats qui s'endorment le soir au creux des fossés et ne se réveillent pas, morts, saisi par le froid, au cœur de l'obscurité. Le blizzard fouette son visage. Et l'empereur doit réunir toutes ses forces pour réfléchir. Alors que l'armée s'est lancée sur les routes du sud en quittant Moscou, son plan a lamentablement échoué. Les Russes, en nombre, gardaient ce passage. Il n'y a alors plus qu'une seule solution, opérer en demi-tour et reprendre la route de l'allée. Ils ont dû repasser par le champ de bataille de la Moscova et y regarder de nouveau les corps étendus là par dizaines de milliers, affronter les premières brises de l'hiver et le harcèlement des Cosaques russes à leurs trousses. Plus d'approvisionnement possible. Il ne leur reste plus que des tenues d'été face au froid. Une organisation inexistante. Tous les ingrédients les conduisent à la catastrophe. Les semaines suivantes, une fois Napoléon parti, le seul objectif du reste de l'armée qui peine à rejoindre la France est la survie. Ils visent le passage de la frontière où les provinces allemandes offriront aux survivants un refuge temporaire. En janvier 1813, les restes de cette armée qui, il y a peu, formait une cohorte invincible et inarrêtable, rentrent en Allemagne. Napoléon, lui, de son côté à Paris, a écarté les tentatives de prise de pouvoir contre lui. Mais dans tous les cas, la situation est absolument catastrophique. D'un côté, l'empereur se rend compte que son pouvoir est remis en cause, même en France. De l'autre, les populations allemandes qui voient passer les débris de l'armée impériale comprennent que l'aigle venu de Corse n'est plus si invincible que ça. Souffle alors, d'Aix-la-Chapelle à Berlin, un vent de révolte et de soulèvement que personne, du côté de l'administration impériale centralisée à Paris, n'avait vu venir. Pour Napoléon, voilà un nouveau challenge qui débute, sans doute le plus difficile depuis le début de sa carrière. Conserver tant bien que mal une armée efficace, la mobiliser pour reconquérir les territoires chèrement acquis. Face à lui, l'Europe entière se soulève déjà.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de la chute de Napoléon Ier. Après de nombreuses campagnes victorieuses ayant permis à la France de larges conquêtes territoriales, l'empereur des Français est dans la tourmente. Son échec en Russie, retentissant, a l'effet d'une bombe sur l'ensemble du vieux continent. Sans attendre, ses anciens ennemis, jusqu'alors muselés, se libèrent de leurs chaînes et décident de se venger des années d'humiliation. Pour Napoléon, cette campagne d'Allemagne qui s'ouvre en 1813 semble bien être celle de la dernière chance. Les Prussiens soulèvent une armée de volontaires et avancent avec succès dans le nord-est du pays. Les troupes russes se mobilisent à leurs frontières. Les Autrichiens, dont l'empereur est le beau-père de Napoléon, décident de rester neutres, jouant la carte de la médiation. La Suède, elle, commandée pourtant par l'un des anciens maréchaux de Napoléon, décide de le trahir. Les mois de janvier, février, mars sont pour l'empereur des Français ceux de la désillusion. Cependant, les nombreuses défections s'arrêtent et, à la date du 1er avril, les forces napoléoniennes sont reconstituées. La moitié de l'Allemagne lui est restée fidèle. La jonction s'opère également entre les restes de la Grande Armée et l'armée de Saxe que Napoléon renvoie en catastrophe en Allemagne. Ce sont alors plus de 350 000 hommes qui sont réunis. La majorité de ces hommes, de cette nouvelle grande armée, sont pour la plupart des jeunes gens, les Marie-Louise, comme on les appelle, du nom de l'impératrice. Ils sont volontaires et remplis de courage. Le problème majeur, c'est leur encadrement. On manque cruellement d'officiers et sous-officiers, car souvenez-vous, le général Hiver russe les a pratiquement tous tués le mois précédent. Les nouveaux sont donc très inexpérimentés. Dès leur baptême du feu, 18 000 d'entre eux sont tués, blessés ou disparus. Pourtant, le mois de mai semble être celui de tous les espoirs. Le 2 mai, puis le 22 et 23 mai, à Lützen d'abord, puis à Bautzen, Napoléon, à raison des hommes de la coalition ennemie, les bat nettement, mais sans pour autant les écraser totalement. Leur retraite est ainsi presque ordonnée à chaque fois. La raison pour cela est très simple. En effet, la cavalerie française est beaucoup moins efficace, beaucoup moins nombreuse. Sans cavalerie légère, l'armée ne peut poursuivre et harceler les vaincus efficacement. Napoléon ajoute donc à son tableau de chasse deux victoires supplémentaires, mais hélas, elles ne sont pas décisives. Les Russo-Prussiens, défaits, peuvent tout de même souffler et se replier en bon ordre. L'empereur des Français, de son côté, entame tout de même une poursuite et semble prêt de reprendre, 7 ans après sa première conquête, la ville de Berlin. C'est à ce moment précis qu'entre en scène la patrie de l'impératrice, l'Autriche, le beau-père de Napoléon. L'empereur François propose une médiation aux belligérants. Très clairement, l'aigle est pris en cage, mais il n'a pas le choix. Un armistice lui est proposé. Et il est maintenant obligé de s'asseoir à la table des négociations. Au début du mois de juin, et après quelques jours de pourparlers, Napoléon et les coalisés signent un armistice qui permet à tout le monde de reconstituer une partie de ses forces. La trêve est prévue pour 4 semaines, mais finit par être prolongée jusqu'au 10 août. En effet, l'Autriche propose à Napoléon un traité où, accrochez-vous bien, la France doit abandonner les 3/4 de l'Italie, l'Espagne, les territoires à l'est du Rhin, la Hollande, la Suisse et les provinces illyriennes, qui regroupent aujourd'hui une partie de la Croatie et la Dalmatie. Bien entendu, le souverain refuse. Ses conquêtes ont été chèrement acquises et Napoléon croit encore en ses chances. Mais l'Angleterre a travaillé en coulisses et, comme à son habitude, finance des armées étrangères pour ne pas envoyer elle-même ses hommes. Ainsi, l'Autriche, le 11 août 1813, soit le lendemain du refus de Napoléon, poussée par l'Angleterre et la Prusse, déclare la guerre à la France. Les 200 000 hommes sont maintenant ajoutés à la coalition et c'est une véritable catastrophe pour Napoléon tant les forces en présence sont alors disproportionnées. Pour ne rien arranger, les coalisés ont appris de leur première défaite et décident de changer de stratégie. Plutôt que de s'attaquer à Napoléon directement, ils concentrent tous leurs efforts pour battre ses maréchaux sans avoir à affronter l'empereur. S'assurant ainsi des victoires plus faciles, ils vont démoraliser plus vite et plus facilement les troupes françaises. En effet, les subordonnés de Napoléon n'ont pas ses compétences tactiques et militaires. En parallèle, chaque victoire de l'empereur, qui lui continue de gagner, est donc rapidement effacée par les défaites de ceux qu'il commande à distance, ses maréchaux. Face à cette situation, l'empereur des Français décide de réunir ses forces au centre de l'Allemagne, tout près de la ville fortifiée de Dresde. Son objectif ? Il souhaite attirer l'ennemi près des murs de la ville et lancer ensuite une dévastatrice contre-offensive. Le nombre lui est défavorable. Il se bat à 1 contre 2. Dans la nuit du 26 au 27 août, au petit matin, il attaque et remporte sa dernière grande victoire tactique. Malheureusement pour lui, malade depuis quelques jours, il doit quitter précipitamment le champ de bataille et l'avantage qu'il a brièvement gagné est perdu quelques semaines plus tard. Napoléon se rend compte fin septembre 1813 de la situation presque désespérée dans laquelle il se trouve. Il ne lui reste plus qu'une option. Se replier vers la ville de Leipzig, son dernier espoir pour garder ses positions en Allemagne. C'est la bataille des nations qui s'annonce. Nous sommes le 19 octobre 1813. Il est 20h. Napoléon est là, abasourdi. Il vient de monter en catastrophe dans une berline qu'on lui a mis à disposition et se replie avec son armée, encore. Mais cette fois, il a perdu tout espoir. Tous les territoires allemands contrôlés par la France vont dorénavant tomber un par un sous le contrôle des coalisés. Pour lui et son armée exténuée, c'est le retour vers la France qui s'annonce. Ce soir, le génie ne peut plus réfléchir. Il est anéanti moralement devant la puissance de feu réunie par ses ennemis et il ne peut que constater ses lacunes. La bataille qui s'achève ce soir était son dernier espoir de maintenir la puissance de son empire. Mais la puissance du camp d'en face est telle qu'il ne peut que constater les dégâts engendrés. À l'extérieur, les oiseaux chantent, semblent presque se moquer de lui et de sa trop grande confiance. Peut-être s'est-il vu trop beau après tout, il saurait le dire. Le soleil est couché depuis quelques minutes et l'obscurité qui envahit le monde s'attaque également à ses pensées et à son moral. Machinalement, il dépose sur la banquette en face de lui son bicorne et enlève sa redingote. Il est seul ce soir dans cette berline. Et de plus en plus, il l'est aussi au dehors. La violence de cette énième défaite le prend aux tripes et il tente, malgré toutes les difficultés, de rassembler ses idées et de mettre en place un plan pour sauver ce qui peut encore l'être. Le repli va s'opérer vers Mayence et le Rhin. La suite, pour le moment, il ne peut la voir ni ne peut l'anticiper. Le 16 octobre, 3 jours plus tôt, les coalisés s'étaient présentés face à lui avec 1500 canons et plus de 300 000 hommes. Lui ne disposait que de 700 canons et à peine plus de 180 000 hommes. Mais l'optimisme était alors dans les cœurs vaillants. Le soleil rasant de l'automne et la puissance du vent semblaient être à l'avantage de l'aigle, qui se voyait déjà écraser ses ennemis d'un solide coup de poing. Pour réussir, il fallait résister à tout prix. Voilà comment cela s'est vraiment passé. La première journée des combats lui donne raison, et bien que ses pertes s'élève déjà à plus de 20 000 hommes, il résiste partout où les alliés attaquent, monte à cheval d'un poids à l'autre, fait aller multitudes de messagers qui transmettent ses ordres et contre-ordres. D'une ardeur et d'une énergie puisée au fond de lui-même. Comme lors de sa jeunesse, Napoléon tient bon, il harangue ses hommes, ses maréchaux et ses généraux. Cette première journée n'a pas été de tout repos, mais la défense est héroïque et cela déstabilise quelque peu les coalisés. Ainsi, le lendemain, 17 octobre, peu d'actions ont lieu dans la journée. Napoléon ne prend pas de risques et ses ennemis jaugent ses forces en lançant 2 actions. De l'autre côté du front, l'arrivée des Suédois et de certains Prussiens font basculer le rapport de force plus nettement encore. Les Prussiens prévoient dès à présent une action offensive pour le lendemain matin. Le 18 octobre s'annonce donc alors comme une journée décisive et particulièrement difficile pour Napoléon. Dès 6 heures du matin, les armées coalisées menées par Blücher, qui, je vous l'apprends peut-être, 2 ans plus tard gagnera la bataille de Waterloo, se mettent en place au nord des positions. Le rapport de force est tellement déséquilibré que rapidement, les armées françaises montrent des signes de faiblesse. Il est 9h du matin lorsqu'une brigade de cavalerie saxonne et une autre, wurtembergeoise, décident de passer à l'ennemi. Même les Russes, qui accueillent ces hommes à bras ouverts, n'en reviennent pas. Rappelez-vous, Napoléon, qui n'a déjà pas beaucoup de chevaux, perd dès le matin 4 régiments de cavalerie pour la pire des raisons. La trahison. La journée va aller de mal en pis. De tous les côtés, les alliés attaquent, harcèlent, pressent des villages, vident les maisons à la baïonnette, subissent aussi de lourdes pertes. Les Français, de leur côté, perdent également des hommes qui tombent comme des mouches. La situation échappe à l'empereur. Mais il parvient contre toute attente à contenir tant bien que mal la percée des alliés. Mais en 9 heures de combat, qui explose de toutes parts, les Français reculent, lentement. À 17h, l'armée saxonne trahit elle aussi et tout entière retourne ses canons contre les soldats français. La bataille est perdue pour Napoléon. 320 000 soldats alliés encerclent les 170 000 qu'il commande encore et pire que tout, la grande armée manque de munitions. Pour éviter la catastrophe, les Français se replient de nuit. La majorité des hommes parviennent à traverser la rivière Elster. Napoléon poursuit sa retraite lorsque, dans l'après-midi, le dernier pont est détruit par les Alliés. Malheur. 1/3 de l'armée n'a pas eu le temps de traverser. Les hommes se jettent à l'eau avec bravoure. risque la noyade, nage pour survivre, nage pour mourir. Napoléon y perdra un de ses maréchaux, le courageux prince polonais Poniatowski, qui se noie dans la rivière avec une partie de ses camarades. Napoléon, lui, perd pied totalement. Le recul pour la survie. Cette bataille des nations, qui durera 3 jours, coûtera la vie à 150 000 hommes, dont 60 000 soldats de Napoléon. La défaite n'est cependant pas totale, même si l'empereur est contraint de repasser le Rhin du côté de la frontière française. Les alliés, épuisés par les combats, ne peuvent les poursuivre efficacement. L'armée française, du moins ce qu'il en reste, est sauve. Cependant, Napoléon perd ses territoires allemands dans cette bataille. Vivier d'hommes et de chevaux. D'un point de vue logistique, c'est une catastrophe absolue. Pire encore, certaines villes fortifiées tenues par les Français sont tout simplement abandonnées alors qu'elles contiennent près de 100 000 soldats pris au piège. Ces hommes auraient été d'un grand soutien pour Napoléon s'ils avaient pu le rallier. À l'heure du bilan, nous sommes maintenant fin octobre 1813. Napoléon comprend que le salut passera par une situation qu'il n'a jamais connue jusqu'alors. Se battre sur son propre sol, celui de la France.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de la chute de Napoléon Ier. Après 2 campagnes désastreuses en Russie et en Allemagne, où l'empereur ne peut que seulement constater les dégâts entre trahison et perte de confiance de ses hommes, le voilà maintenant de retour en France. Dangereusement, les armées alliées s'approchent de ses frontières. Cette situation, encore inimaginable, 2 ou 3 ans auparavant, va le pousser à réenfiler son bleu de chauffe pour redevenir un général. Celui-là même qui ne va pas hésiter à tirer au canon pour mobiliser ses hommes. Le 7 novembre 1813, Napoléon rentre en France. À Saint-Cloud, le 9, il se rend compte que la situation financière est catastrophique. Pire, quelques jours plus tard, la Hollande se révolte et chasse les Français. Voilà pour Napoléon une perte importante de financement et cela ouvre une brèche folle dans ses frontières du Nord. C'est inimaginable, incompréhensible, et il ne peut que constater. Il y a un an, toute l'Europe marchait pour nous. Aujourd'hui, toute l'Europe marche contre nous. Encore et comme toujours durant son règne, la seule solution qui s'offre à Napoléon est celle d'engager des hommes à le suivre. Ce sont alors 300 000 nouveaux soldats, conscrits et rappelés des guerres de 1804 à 1807. Les alliés, eux, tentent de nouveau de proposer une paix qui ramènerait la France à ses frontières d'après la Révolution. Napoléon perdrait ainsi toutes ses conquêtes précédentes âprement gagnées. Il s'y refuse, et les négociations restent au point mort. Les conséquences sont terribles. Dès le 15 décembre, les armées ennemies se mettent en marche vers la France. La veille de la nouvelle année 1814, elles passent le Rhin. La campagne de France, celle de la dernière chance, commence. Les trahisons, elles, ne s'arrêtent pas et fusent de toutes parts. Le corps législatif s'agite, l'empereur tente de le contenir. Murat, son propre beau-frère et roi de Naples, trahit afin de garder son trône. Pour Napoléon, le moral n'est donc pas au beau fixe comme vous pouvez l'imaginer. À la fin du mois de janvier, 2 armées lui font face en Champagne. Face aux 250 000 hommes qui s'avancent, Napoléon, lui, n'a pas pu rassembler plus de 70 000 soldats. Le rapport de force, cette fois-ci encore, comme en Allemagne, est très nettement à son désavantage. Mais cette situation, aussi mauvaise soit-elle, entraîne chez lui un regain de virtuosité. À le voir ainsi remotivé, on croirait le tout jeune Bonaparte de la première campagne d'Italie qui foule le sol de France. À Brienne-le-Château, la ville dans laquelle il est allé à l'école militaire, il surprend les Prussiens. Indifférent au danger, il tente le tout pour le tout, se battant lui-même avec rage. Il échappe de justesse à la mort. Il est sauvé in extremis par son aide-de-camp alors qu'il est attaqué par un cosaque. Au début de cette campagne, alors qu'à chaque affrontement il est en infériorité numérique, son génie militaire s'exprime. Le virtuose qu'il est impressionne ses subordonnés et ses soldats. L'espoir est là. enfouis sous les difficultés, mais les braises de l'espérance sont vives. Cependant, la réalité du terrain finit par l'emporter. Maintenant qu'on ne compte plus que 33 000 Français contre 150 000 soldats coalisés en face d'eux, tenir n'est plus possible. Et le repli sur la ville de Troyes est décidé. Cependant, les peuples coalisés, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, se disputent l'honneur d'entrer victorieux dans Paris, la ville lumière. Ils ne s'entendent pas à ce sujet et ils se déchirent. Cette brouille, aussi puérile qu'inattendue, est une vraie chance pour Napoléon. Le fougueux empereur général se précipite sur la ville de Champaubert et piétine en 2 heures à peine tout un cœur d'armée. Les jours suivants, Montmirail, Vauchamp et Château-Thierry sont des victoires écrasantes sur les Prussiens. Cette campagne des 5 jours transforme l'armée prussienne en une force disparate, fatiguée, et l'empereur ne les lâche plus. Remotivé de plus belle, giberne sur le dos, fusil à l'épaule, champ à tue-tête. Cette armée de jeunes recrues et de vieux grognards parcourt plus de 100 kilomètres pour affronter les Prussiens. Le résultat ? Nouvelle victoire. Dans le camp d'en face, les alliés doutent d'eux-mêmes, sont épuisés. Cela est dû au harcèlement des soldats napoléoniens, mais aussi des paysans qui condamnent les exactions des envahisseurs sur leurs propres terres, nombreuses depuis quelques mois. En même temps que la guerre, se tiennent des discussions pour un éventuel traité de paix. Nouvel échec des pourparlers. Résultat, les coalisés se ressoudent autour d'une promesse. Celle de se jurer assistance mutuelle contre l'armée de Napoléon durant 20 ans. Pire encore, interdiction d'y déroger pour signer une paix séparée avec la France. Enfin, chaque nation promet d'engager pour cela 150 000 hommes chacune. Faites le calcul avec moi. Angleterre, Prusse, Autriche, Russie, 600 000 hommes donc jusqu'à la victoire. C'est tout bonnement hallucinant. L'issue de ce conflit n'est donc pas favorable à Napoléon s'il suit la voie de la diplomatie. Il n'a donc pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout sur le terrain. Il n'a pas perdu sa ferveur. Mais ses subordonnés et certains de ses soldats, eux, oui, ils sont épuisés. Les plus gradés d'entre eux, les maréchaux pour la plupart, n'ont en tête que la sauvegarde de leur fortune personnelle, âprement gagnée au fil des batailles de Napoléon. Leur objectif, après 20 ou 25 ans de conflit, c'est la pension. Et ils l'estiment bien méritée. Pourtant, sur le terrain, les soldats français tiennent la dragée haute à l'armée prussienne. Ils se maintiennent lors de plusieurs batailles de cette fameuse campagne de France. À Craon, à Laon, même à Reims, où ils entrent de manière triomphale, à la lueur des torches, la nuit du 13 mars 1814. Rendez-vous compte, les victoires s'enchaînent. Et pourtant, vous connaissez déjà la fin de cette histoire. Napoléon sera bientôt contraint à l'abdication. Mais que s'est-il donc passé ? Les troupes de Napoléon marquent le pas. Et les ennemis sont de plus en plus nombreux. À la bataille d'Arcy-sur-Aube, Napoléon est contenu par les Autrichiens le 20 mars. Rien ne semble pouvoir maintenant arrêter l'entrée à Paris des ennemis de la France. Napoléon le sait et décide de tenter une dernière manœuvre désespérée en s'attaquant à leur ligne de ravitaillement. En effet, cela les obligerait à faire demi-tour et à retarder leur entrée dans la capitale. Peine perdue, c'est un échec. Et le 30 mars, les troupes alliées défilent sur les Champs-Élysées. C'est l'humiliation ultime pour Napoléon, son régime et ses soldats. La ville de Lyon a déjà été abandonnée aux ennemis et c'est maintenant au tour de Bordeaux de se rendre. L'étau se resserre et les options se raréfient. Les Cosaques décident d'installer leur camp au cœur de Paris. Et les Parisiens ne semblent pas se révolter contre la présence ennemie. La chute de Napoléon, programmée, ne semble affoler plus personne. Pendant ce temps, le 3 avril 1814, le diable boiteux, le terrible Talleyrand, parvient à faire voter par le Sénat la déchéance de l'empereur. Napoléon est maintenant le seul qui se bat encore contre l'évidence, celle de l'abdication et de l'exil. Déçu au plus profond de lui-même, il part à Fontainebleau avec les 60 000 soldats qui lui restent. C'est là, dans ce château royal, que ses derniers partisans vont lui tourner le dos. Ses maréchaux les plus proches, à qui il a tout donné, le pressent d'abdiquer en faveur de son fils, le jeune roi de Rome. Le 4 avril, Napoléon accepte cette éventualité, s'exécute et abdique. Deux jours plus tard, la trahison de son armée se trouvant près de Paris entérine ses espoirs de régence en attendant la majorité de son fils. On le condamne à l'exil sur l'île d'Elbe, mais il conserve son titre d'empereur et la France devra lui verser 2 millions de francs or par an le reste de sa vie. Le Sénat, lui, écartant le fils de Napoléon du pouvoir alors qu'il n'a que 3 ans à peine, plébiscite sur le trône la venue de Louis XVIII, frère de Louis XVI, à qui les Français ont coupé la tête en 1793. Pour Napoléon, c'est la route de l'exil qui s'ouvre devant lui. Pourtant, un an plus tard, alors que tous ses ennemis en Europe pensaient s'en être définitivement débarrassés, c'est la stupeur. Il s'échappe de nuit de sa prison dorée de l'île d'Elbe. Il estime que les conditions du traité d'abdication ne sont pas respectées par le roi et compte bien le faire savoir. L'empereur déchu s'évade et débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Bientôt rejoint sur les routes du sud de la France par une grande partie de sa grande armée fidèle. L'aigle vole vers le trône et la période terrible des 100 jours commence. Mais c'est une autre histoire qui sera la dernière de la destinée de Napoléon Bonaparte.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.